Mémoire vive.
Présentée par Christelle Le Polotec
et préparée par Rachel Rimmer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Quand j'ai allumé la radio le 22 juin, un hurlement hystérique en allemand m'a sauté au visage comme un nœud de vipère. De tout ce vacarme, j'ai compris une seule chose, que l'armée allemande avait franchi la frontière. Je me suis précipitée à l'extérieur et je suis allée là où mon regard me guidait. C'est par ces mots que débute le livre d'Avrom Sutzkever, Le ghetto de Wilno, qui vient de paraître aux éditions de Noël avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Gilles Rosier, qui dirige la Maison de la culture yiddish à Paris. Vous êtes également écrivain et vous avez traduit du yiddish ce livre d'Avrom Sutzkever. Il s'agit d'un livre important à de nombreux égards, d'une part parce que son auteur est l'un des plus grands poètes de langue yiddish, fondateur de la revue littéraire dit Golden Eckett.
Oui,
c'est bien ça.
C'est ça.
Et d'autre part, parce que ce livre, rédigé à Moscou durant l'été 44, est un témoignage édifiant sur le ghetto de Vilnius. Un témoignage de première main, puisqu'Avrom Sutzkever a vécu dans ce ghetto jusqu'en septembre 43, c'est-à-dire peu de temps avant sa liquidation, qu'il a très vite rédigé ce texte, qui était au départ destiné à figurer dans le livre noir d'Elia Ehrenbourg et Vassili Grossman. Un texte qu'il reprendra dans ses grandes lignes lorsqu'il témoignera lors du procès de Nuremberg. À cette occasion, il note dans son journal « Et moi, peut-être le seul poète yiddish rescapé de toute l'Europe occupée, je viens au procès de Nuremberg non seulement pour déposer, mais comme témoin vivant de l'immortalité de mon peuple. » On sait qu'il aurait aimé témoigner en yiddish, cela n'a pas été possible, mais qu'est-ce que cela révèle, à votre avis, Gilles Rosier, du parcours, de la personnalité d'Avrom Sutzkever?
Le fait qu'il ait voulu témoigner en yiddish ou le fait qu'il n'ait pas pu?
Les deux.
Alors, le fait qu'il ait voulu témoigner en yiddish, c'était parce que le yiddish était sa langue, et pour un écrivain, sa langue de création. Et dans le contexte d'après-guerre, c'était pour lui très important d'affirmer cette langue. Il l'affirmera plus tard en créant en Israël, où l'hébreu était très hégémonique, une revue littéraire en yiddish. Au contraire d'autres juifs d'Europe orientale qui auraient peut-être plus considéré le yiddish comme une langue familiale, une langue de cuisine entre guillemets, Avrom Sutzkever faisait partie de cette génération d'écrivains yiddish qui voulaient imposer la langue yiddish comme langue de culture et comme langue dans laquelle on pouvait traiter tout sujet, on pouvait écrire des ouvrages scientifiques et on pouvait témoigner dans un procès. Principalement le procès, évidemment, des crimes nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. La raison pour laquelle il n'a pas pu témoigner, c'est une raison beaucoup plus administrative, disons. Faut pas y voir là, je ne crois pas qu'il faille y voir là une malveillance de la part des Soviétiques. C'est que les Soviétiques, ils ont fait témoigner leur témoin en russe. Sans doute aussi dans le contexte de la guerre froide, il fallait que les Soviétiques s'imposent par rapport aux Américains ou aux Anglais. Voilà, c'est les raisons que je vois.
Justement, à l'origine de ce livre, il y a donc une commande d'Elia Ehrenbourg qui avait entendu parler dès l'avant-guerre des poèmes en yiddish d'Avrom Sutzkever. Comment le fait qu'il s'agisse à la base d'une commande soviétique a influencé l'écriture de ce texte, à votre avis, Gilles Rosier?
Alors déjà, en ce qui concerne ce texte, vous disiez que c'était un témoignage de première main. C'est un mix, en fait, entre son propre témoignage et les scènes auxquelles il n'a pas assisté, notamment les scènes d'assassinat de masse dans les fossés de Ponard, où plus de 60 000 juifs de Wilno ont été assassinés. Par définition, puisqu'il en a réchappé, il n'y était pas, donc il fait parler des témoins, et notamment des témoins, les 2, 3, 4 personnes qui ont pu réchapper de ces assassinats. Donc c'est à la fois un témoignage et un reportage de témoignages, première et seconde main. Alors évidemment, le contexte dans lequel Avrom Sutzkever écrit ce texte, c'est Moscou 1944, et dans l'avant-propos que je propose à la traduction, je préviens quand même le lecteur qu'il faut être un petit peu, faire un petit peu attention à ce contexte historique, parce que bien entendu à Moscou 1944 on pouvait pas écrire ce qu'on voulait, c'était quand même dans le contexte de la grande amitié entre les peuples soviétiques, donc il fallait sans doute mettre en évidence notamment l'entraide entre les différents peuples qui étaient présents en Lituanie à l'époque. La résistance dans le texte de Sutzkever est exclusivement communiste. Mmh. En Lituanie, pendant la guerre, il y avait des résistances non communistes. Donc il y a quelques préventions à avoir. Néanmoins, je pense qu'il me semble que sur le témoignage concernant le ghetto, la constitution du ghetto, etc., et puis les historiens l'ont confirmé, de ce côté-là, son témoignage est très fiable.
Il est mort en 2010. Il n'a jamais eu envie de revenir à ce texte, justement, qui avait été écrit dans cette. C'est même pas l'après-guerre, c'est à la fin de la guerre. Quoi.
On s'est posé la question, effectivement. Notamment, il y a eu une nouvelle édition en 1945 à Paris. Tout de suite, les originaires de Lituanie parisiens, enfin l'association d'originaires, a publié le texte en yiddish à mm-hmm. Paris. Mais le texte en yiddish qui a été publié à Paris est le même que celui qui avait été publié à Moscou. Je pense pas que, enfin, de toute façon, les questions que je me pose, c'est pas des questions centrales dans ce témoignage. Les questions centrales, c'est vrai, d'abord, c'est à mon sens un très beau texte littéraire. C'est pas seulement un témoignage, mmh. c'est une construction littéraire. Et c'est vraiment, enfin, ce qui est fascinant dans son texte, c'est, enfin, moi-même, si je peux vous parler de mon propre ressenti quand je l'ai découvert en yiddish, c'est l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, l'histoire de l'assassinat des Juifs, de l'extermination, c'est un thème que je connais bien. Et j'ai vraiment réalisé, par exemple, il y avait une question que je me posais, c'était pourquoi est-ce que les gens dans les fosses où on les assassinait en masse, puisque en Europe orientale, on ne gazait pas les gens, on les tuait d'une balle dans la nuque ou par d'autres procédés, mais à coup de feu. Je me disais pourquoi est-ce que les gens se sont déshabillés avant. Et en fait, lui, il explique très bien. D'abord, c'était toute une programmation psychologique. On les a d'abord enfermés, après on les a rendus dingues en leur donnant des lois qui étaient souvent incohérentes, enfin paradoxales, qui changeaient tous les jours. Enfin, les gens étaient rendus fous. Il y avait deux ghettos, donc on savait pas quand on était dans le premier ghetto. Et qu'on avait de la famille dans le deuxième, on savait pas ce qu'ils étaient devenus. Quand il y avait des raves dans un ghetto, on se disait, il y avait une partie des gens qui étaient envoyés dans le deuxième ghetto, donc ça laissait espérer que sa famille avait été envoyée dans le deuxième ghetto et non pas assassinée. Enfin bon, les nazis ont rendu les juifs dingues. Et quand les gens arrivent vers les fosses, il décrit qu'il y a un des assassins qui dit, bah, maintenant vous avez deux solutions, soit on vous arrache les yeux comme à cette personne dont on vous a montré l'exemple, et soit on vous arrache pas les yeux, et si vous vous déshabillez, on vous arrachera pas les yeux. Et donc les gens se sont déshabillés. Voilà. Et c'est ce genre de choses très fortes, et cette espèce d'entonnoir dans lequel se trouvent coincés les juifs, qui est extrêmement bien construit d'un point de vue narratif dans son texte.
Oui, il y a, comme vous le disiez, il y a à la fois le récit de sa propre vie dans le ghetto, et également des témoignages qu'il a recueillis donc par la suite, et tout ça forme un portrait assez riche, c'est-à-dire qu'à la fois on va avoir la vie quotidienne dans ce ghetto de Vilnius, avec des choses extrêmement positives, on en parlera peut-être, ou en tout cas on sent une énergie absolument incroyable, notamment il y a une école qui est créée assez rapidement, un théâtre, un orchestre, même une salle d'exposition qui n'ouvre que la nuit pour échapper aux nazis, et puis cette longue évolution, le dernier chapitre notamment, ce qui s'intitule sur les chambres fumantes, qui est à la limite du soutenable. C'est-à-dire
oui.
qu'il y a c'est une sorte de portrait complet.
Très composite, oui. Soutskevor insiste notamment beaucoup sur la survie intellectuelle dans le ghetto. Bon, il est écrivain, il a dit lui-même, après-guerre, qu'il n'aurait pas pu survivre dans le ghetto s'il n'avait pas écrit de la poésie, donc il est tout à fait conscient de l'importance de la vie intellectuelle pour survivre. Et c'est pour ça qu'il donne notamment des statistiques sur les écoles, combien il y avait d'étudiants, quel genre de diplôme on distribuait, etc., etc., les remises de prix, enfin, des choses très détaillées. Mais on sent que toute cette vie intellectuelle, il a participé, il a été sollicité pour être dramaturge du théâtre du ghetto, Il a reçu des critiques de certains de ses amis qui lui ont dit on fait pas du théâtre entre des murs qui s'effondrent et il a décidé de participer à cette aventure d'un théâtre dans un ghetto et effectivement donc il y a des moments enfin de d'espoir et d'espoir mais qui sont très vite déçus parce qu'il dit bah voilà il y avait 40 acteurs au bout de 15 jours il y en a 15 qui ont été raflés, on en avait plus que 25 ou alors à la fin tout le chapitre sur les écoles dire de tous les enfants qui ont eu un diplôme dans les écoles il y en a 15 qui ont survécu après-guerre mais à côté de ça il décrit les choses atroces qui ont été faites aux gens du ghetto.
Il y a ce passage qui rappelle d'ailleurs un passage du journal de Victor Klemperer avec lequel on peut avoir certaines similitudes, notamment la nécessité d'écrire. En tout cas, pour eux deux, manifestement, le fait d'écrire les a sauvés presque. Le fait de consigner, soit par la poésie dans le cas de Sulzbecker, soit dans le cas d'un journal. Il y a notamment donc cette liste de lois qui sont imposées au ghetto. Donc c'est page 106 de votre livre, en tout cas le livre que vous avez traduit. Il est impossible d'inventorier toutes les lois et ordonnances qui s'abattirent sur le ghetto. Je vais essayer d'en dresser une liste qu'un homme normalement constitué essaie seulement d'en comprendre le sens. Les juifs n'ont pas le droit de regarder par les fenêtres qui donnent à l'extérieur du ghetto, c'est pourquoi ces fenêtres doivent être condamnées ou badigeonnées de couleurs sombres. Il est interdit aux juifs de parler de politique, les juifs n'ont pas le droit de parler allemand. Les juifs qui feront commerce ou parleront à un non-juif seront fusillés. Les juifs n'ont pas le droit de porter une moustache. Il est interdit de manger gras. Les femmes juives ne doivent pas se teindre les cheveux ou se mettre du rouge à lèvres. Il est interdit de prier et d'étudier. Toute personne de plus de 6 ans doit porter l'étoile jaune, que ce soit dans le ghetto ou à l'extérieur. Quand un Allemand pénètre dans le ghetto, on doit se découvrir devant lui. Mais on ne doit pas s'incliner ni lui dire bonjour. Il est interdit de faire entrer des fleurs dans le ghetto. Les femmes juives n'ont pas le droit d'accoucher. Si une femme donne naissance à un enfant, elle sera tuée avec le nourrisson.
Oui, bon, évidemment, parmi toutes ces lois, la plus terrible est la dernière. Et en plus, quelques temps après, il raconte comment sa femme a accouché et que le lendemain, son fils a été tué pour pas que la mère soit tuée. Ils ont tué leur enfant. Pour que la mère puisse réchapper. Et en même temps, quand il dit c'était dénué de toute logique, il y a beaucoup de logique là-dedans, même si c'était fait pour rendre les gens fous.
Bon, c'est effectivement ce qu'il explique dans ce chapitre, la confusion des couleurs, je crois.
Oui, alors bon, au début où les Allemands ont imposé ce qu'on appelle en France l'étoile jaune, l'étoile à Vilnius n'a pas toujours été jaune, des fois elle était blanche, des fois enfin c'était des brassards de différents types et tout. Donc ça changeait très très vite, donc les gens ils n'avaient jamais le bon brassard. Après, il y avait des certificats de travail pour les gens qui travaillaient, et puis du jour au lendemain, ils changeaient la couleur du certificat. Mais tout ça, en fait, la logique de tout ça, c'est dans la tête des nazis.
De déstabiliser psychologiquement.
C'est de déstabiliser, et surtout, c'est de focaliser la population sur le fait qu'il fallait être en règle. Donc, soi-disant, si vous étiez raflé, c'est que vous n'étiez pas en règle.
Vous étiez coupable.
Vous étiez délinquant, voilà. Vous n'étiez pas en règle avec la loi. Et bon, les lois, bon, on peut imaginer qu'une femme n'a pas le droit de se mettre du rouge à lèvres et de se teindre les cheveux parce qu'elle n'a pas le droit d'être belle. On peut imaginer que c'est aussi pour éviter que des nazis tombent amoureux de femmes juives. Le fait de pas pouvoir parler allemand, forcément, on a plus de sympathie pour quelqu'un qui parle votre langue, pour quelqu'un qui ne la parle pas. Donc, pour éviter que les Allemands fraternisent, quelque part. Enfin, l'histoire de porter la moustache, en fait, c'est pour que les juifs qui sortaient du ghetto puissent être reconnus par rapport à la population. Parce qu'apparemment, la population lituanienne...
Voilà,
c'est ça. Un peu comme les Nord-Africains de nos jours. La mode est à la moustache, donc voilà. Et voilà, donc finalement, ces lois terribles avaient quand même une utilité au regard des nazis.
Est-ce que vous pouvez nous parler, Gilles Rosier, de la vision qu'il donne des relations, cette fois, avec les Lituaniens?
Alors, les relations avec les Lituaniens, bon, il consacre un chapitre important à une femme lituanienne qui lui a sauvé la vie. Il est sorti du ghetto à un moment donné, il a tapé à une porte au hasard, et cette femme a été extraordinaire avec lui. Elle voulait d'ailleurs sauver sa famille qui était dans le ghetto, et lui-même a décidé d'y retourner au ghetto. Et il insiste beaucoup, notamment il parle des non-juifs qui avaient rejoint la résistance juive dans le ghetto, il parle des non-juifs qui avaient décidé de partager le destin des juifs dans le ghetto, alors qu'ils n'y étaient pas obligés, et il parle d'un certain nombre de non-juifs qui ont eu à cœur de combattre avec les juifs ou de leur porter secours. Et il dit que la population du ghetto n'aurait pas pu survivre sans cette aide. Ce qu'elle a pu survivre sans cette aide. A contrario, y a des témoignages sur l'animosité des résistants lituaniens par rapport aux résistants juifs. Il en parle un tout petit peu, mais assez peu. Donc cette animosité-là, je pense qu'il n'a pas pu la mettre en exergue du fait de l'Union soviétique, parce que ces groupes de résistants étaient lituaniens ou biélorusses. Non, pas y compris des résistants communistes. Mmh. Mais évidemment, l'Union soviétique aurait mis son veto sur des propos de ce genre. Néanmoins, je pense que dans la doxa occidentale, on a toujours l'impression que les Lituaniens ont été un peuple de monstres qui, en masse, ont assassiné les Juifs. Bon, pour préparer là mon propos, je ne suis pas historien moi-même, mais j'ai quand même consulté un certain nombre d'ouvrages, y compris des ouvrages lituaniens, d'historiens sérieux, évidemment, pas de propagandistes. Et la milice lituanienne pro-nazie, c'était 150 personnes à Vilno.
Ce qu'il appelle les captureurs, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Et la Waffen-SS lituanienne, en fait, les Ipatingas, c'était 150 personnes. La même façon qu'on dit sur le ghetto de Varsovie, toute la population de Varsovie était à guetter les juifs qui sortaient du ghetto pour les vendre à la Gestapo. Il y avait 200 mouchards à Varsovie pour une population de 700 000 Polonais à Varsovie. Donc c'est comme si on disait que la France entière avait été milicienne pendant la guerre. Il y avait des miliciens en France et il y avait 90% de la population qui ne bougeait pas et une minorité qui était résistante. Voilà, donc en fait... Je pense que ce livre aussi permet de relativiser l'espèce de cliché qui laisse à considérer que la population lituanienne, dans ce cas-là, mais polonaise ou même ukrainienne, a été massivement collaboratrice de l'extermination des Juifs.
Il y a l'aspect que vous avez évoqué tout à l'heure, la question de la résistance. Alors, avant peut-être de venir un peu à l'organisation unifiée de la résistance du ghetto de Vilno, j'aimerais qu'on parle sur un épisode qui est absolument incroyable, c'est les brigades de papier.
Oui, les papiers brigades. Papier-brigade. Oui. Alors, Vilno était un des hauts lieux de la culture yiddish et juive. D'une façon générale, il y avait quatre grandes bibliothèques très importantes, dont une réputée dans le monde entier pour ses manuscrits, des incunables, enfin des choses très 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 anciennes. Et les nazis, dans le cadre de la mission Rosenberg, de Alfred Rosenberg, avaient décidé dans l'Europe entière de réunir les choses les plus précieuses de la culture juive pour créer un musée de la race disparue en Allemagne. Et donc, il procédait de la manière suivante. Il faisait trier par des spécialistes juifs les objets et les manuscrits, les livres, et après, ils éliminaient la majeure partie et ils gardaient les choses qui leur paraissaient les plus précieuses. Et Avram Soutzkever a été incorporé dans cette brigade avec une cinquantaine d'intellectuels juifs de Vilno.
Alors qu'il était dans le ghetto.
Voilà, il était dans le ghetto, et en fait, le centre de tri de ces choses se passait dans le bâtiment du centre historique juif qui s'appelle le Yivo, et qui avant-guerre était à l'extérieur du ghetto. Donc ils sortaient tous les matins pour aller travailler au bâtiment du Yivo et ils rentraient tous les soirs. Et ils ont fait cette chose qui symboliquement est extraordinaire. D'abord, ils ont sauvé des quantités impressionnantes de choses et ils ont fait exactement le contraire de ce qu'on faisait. Plutôt que d'exfiltrer des choses du ghetto, ils les ont infiltrées dans le ghetto, c'est-à-dire qu'ils rapportaient le soir des objets, des manuscrits, des livres, pour pouvoir les cacher dans des planques souterraines à l'intérieur du ghetto, au risque de leur vie, évidemment. Et c'est grâce à ça qu'ils ont sauvé des manuscrits, y compris de Tolstoï, de Romain Rolland, de bon, Scholem-Alechem, Peretz, etc. Des tableaux de Chagall qui étaient dans les différents musées ou bibliothèques de Villeneuve avant-guerre. Et on appelle ça maintenant les brigades de papier, parce que c'était une résistance vraiment, une résistance spirituelle et intellectuelle, une résistance oui. de papier.
La sauvegarde de l'héritage culturel, véritablement, il y avait cette dimension. Ça nous amène aussi à la question des planques qui vont être utilisées donc, pour dissimuler ces œuvres d'art ou ces lettres, ces livres. Mais il y a aussi un très long chapitre qui est consacré aux planques.
Oui, alors, je ne suis pas spécialiste des ghettos en général, mais la situation, il semblerait qu'à Villeneuve, il y a eu vraiment une recherche de se cacher dans les souterrains, dans tous les trous qui pouvaient exister, qui a été très importante. Je n'ai pas connaissance qu'il y a eu la même chose dans le ghetto de Varsovie, par exemple.
Bah, ce qui est peut-être aussi particulier, c'est le fait que les Juifs pouvaient sortir du ghetto. Donc on a l'impression que la vie juive, finalement, à Vilnius, était beaucoup plus large que le seul ghetto, et qu'elle a duré aussi après, puisqu'il explique que de nombreuses, enfin, certains juifs qui avaient réussi à se sauver du ghetto avant la liquidation se sont cachés dans des planques dans la ville jusqu'à la fin de la guerre.
Oui, peut-être. C'est peut-être aussi du fait de la configuration du réseau des mm-hmm. égouts. Je ne sais pas pour quelle raison. En tout cas, il y a un mot qui est les malines, mm-hmm. Les planques, qui est un mot typiquement, qui est très associé dans la langue yiddish à ville pendant la guerre.
Ah oui.
Et donc, les gens, au début, au moment des premières rafles, déjà, puisque, en fait, contrairement à Varsovie, à Villeneuve, avant même la constitution du ghetto, les gens ont été raflés. C'est-à-dire qu'il y a 20 000 personnes qui ont été mises dans le ghetto, 40 000 personnes qui ont été raflées et assassinées dès l'arrivée des nazis, dans les premières semaines après l'arrivée des nazis. Donc déjà à l'époque, les gens, avant même la constitution du ghetto, avaient pris l'habitude de trouver n'importe quel trou de souris pour se cacher le temps des rafles. Et Avram Sutzkever, en juillet 1941, a passé 3 semaines entre un toit de zinc et la doublure du toit à cuire en plein mois de juillet au soleil et à écrire des poèmes allongés avec une personne qui lui apportait à manger, qui lui passait un petit peu à manger. Et donc au moment du ghetto, effectivement, ces plans ont continué, et il décrit tous les dispositifs absolument invraisemblables d'ingéniosité pour essayer de faire vivre des gens sous terre dans les meilleures conditions possibles. Et il décrit aussi comment est-ce que des planques ont été découvertes. Il dit notamment que souvent c'était les enfants qui pleuraient, qui alertaient les nazis. Il parle de parents qui ont étouffé leurs enfants pour pouvoir sauver les 30 ou 40 personnes qui étaient cachées avec eux dans la planque. Enfin, des situations terribles.
Alors, dans un épisode un peu moins dramatique et voire même très, très ironique, il raconte notamment comment une famille s'est planquée dans la maison de Kittel, qui était un des hauts dignitaires nazis. Ça, c'est absolument incroyable aussi.
Oui, il commence en disant finalement, cette personne dont j'ai oublié le nom avait considéré que là, elle serait le plus en sécurité, c'est à l'intérieur même de la gueule du loup. Ouais. Donc, il s'était caché
dans le sous-sol, voilà, dans la chauffagerie.
Oui, et en fait, il le raconte de manière très haletante, disons.
Absolument.
Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, les gens prennent des bains de vapeur dans cette maison. Donc, on vient chercher du bois. Ils sont cachés sous le tas de bois. On vient chercher du bois et le tas de bois s'amenuise. Donc, il y a un moment où ils se disent, il n'y aura plus de bois et on va nous découvrir. Et c'est, bon, il faut le talent d'Avram Sutzkever pour décrire ça de manière magnifique. Et en même temps, c'est un texte, tout le texte est écrit sans aucun pathos, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de froideur de la description qui en donne, à mon sens, toute la force.
De froideur, et aussi, on sent vraiment un amour pour cette communauté qui se débrouille, qui produit des génies. Il en parle à plusieurs reprises, des enfants extrêmement, extrêmement doués, notamment il y a ce peintre. Mais en l'occurrence, il y a effectivement cette... Oui, c'est les témoignages de... d'une vie extrêmement riche.
Voilà, sous mais la menace constante, on n'est pas dans l'larmoiement, on n'est pas dans la commisération. Parfois, il est ironique, notamment quand il parle des nazis. À un moment donné, il parle de la pitié nazie pour raconter un épisode atroce. Une fois, il a un chapitre qui s'appelle « Commisération nazie » pour raconter comment est-ce qu'ils assassinaient les gens. Enfin bon, il y a parfois une pointe d'ironie extrêmement mordante.
Justement, les responsables nazis, les bourreaux sont nommément désignés. Est-ce que c'est un aspect de son témoignage qui a particulièrement intéressé, enfin, qui fait qu'il a été amené à témoigner à Nuremberg?
Je pense qu'on avait choisi de le faire témoigner à Nuremberg avant qu'il écrive c'est-à-dire que son témoignage, on le lui a commandé pour son témoignage. Mais peut-être ce que je saurais pas vous répondre, mais peut-être qu'on lui a dit il faut nommer les gens nommément. J'ai écrit un glossaire pour parler des personnages juifs les plus importants et des nazis les plus engagés dans l'extermination. Et parce que des fois, il a fait des petites erreurs d'orthographe, des choses comme ça. J'ai été surpris de voir quel a été le destin des assassins des juifs de Vilno. Bon, il y en a qui sont morts sur le front russe à la fin de la guerre, mais il y en a qui sont morts de leur belle mort dans les années 60, 70, 80, soit en Allemagne, soit en Autriche, y compris un qui a été jugé, puis rejugé, puis gracié à la fin des années 60 en Autriche, enfin, des choses comme ça, quoi. Donc, c'est aussi... Et les personnages dont il parle, évidemment, les Juifs qui étaient dans le ghetto, pour 99% d'entre eux ou 95% d'entre eux, ils n'ont pas survécu à la guerre. En fait, la plupart des gens qui ont survécu, c'était principalement les gens qui sont engagés dans la résistance. Ceux qui étaient contre le fait qu'il y ait une résistance, pour la plupart, ont disparu.
Oui, on va peut-être terminer avec cet aspect-là, justement, la question de la résistance. Et ce qui explique justement peut-être qu'ils ont pu survivre, c'est qu'en gros, ils ont dû fuir le ghetto quelques jours avant sa liquidation, parce que le chef de la résistance s'était rendu quelques jours auparavant, c'est ça?
Oui, et puis il y a une histoire très dramatique concernant le ghetto de Vilno. Les Allemands avaient réclamé la tête de Itzik Wittenberg, qui était le commandant de la résistance du ghetto. Et ils avaient dit, si on n'a pas sa tête, on bombardera le ghetto. Il restait encore une vingtaine de milliers de personnes. Et donc, il a commencé à y avoir des polémiques à l'intérieur de la population. Et la majorité de la population a demandé à la résistance de livrer Wittenberg. Et la résistance n'était pas d'accord. Et c'est Wittenberg lui-même qui a dit je vais y aller. Donc les nazis avaient dit on va juste l'interroger, on le libérera. Évidemment, ils l'ont torturé et assassiné dans la nuit même. Et en fait, le credo de Wittenberg, c'était de faire de la résistance et de défendre les habitants du ghetto dans le ghetto. Et à partir du moment où il a été livré et assassiné, les autres résistants ont décidé, finalement, il a été livré à cause des habitants du ghetto, donc pourquoi est-ce qu'on continuerait à défendre les habitants du ghetto? Et ils ont décidé de partir principalement par les égouts et de rejoindre la résistance dans les forêts autour de Vilnius, même un peu plus loin, à une centaine de kilomètres de Vilnius en Biélorussie, pour lutter contre les nazis en général et plus pour protéger le ghetto. Et donc ça, c'est une histoire terrible, parce que finalement, c'est l'histoire de juifs qui disent à leurs résistants « arrêtez de résister parce que c'est mauvais pour nous ». Et bon, évidemment, la fin de l'histoire, c'est que les nazis ont quand même fini par liquider le ghetto 2 mois après. Donc c'était une grave erreur de la part de la population de penser que quelque chose allait pouvoir les protéger. Mais bien entendu, qui sommes-nous pour juger une attitude... Vous savez, on a organisé la commémoration du 70e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie il y a quelques jours à la Maison de la Culture Yiddish. Et on a consacré cette année au ghetto de Vilno, du fait de l'apparition de ce livre. Et il y avait une survivante du ghetto de Vilno qui n'a pas souhaité prendre la parole et qui est venue me voir après en me disant « Vous savez ce que Soutskeva raconte dans son livre, je l'ai vécu tous les jours. » Et elle m'a dit « Je ne souhaite à personne de vivre un jour dans sa vie ce que nous avons vécu. » Et j'ai trouvé que c'est une phrase extraordinaire, parce que ça dit tout de la folie dans laquelle les assassins avaient mis la population, y compris forçant les faibles à se compromettre, enfin voilà, toutes les compromissions qu'il a pu y avoir de la part des juifs pendant la guerre aussi. Et finalement, on le comprend assez bien aussi dans le témoignage de Sotskavara.
Absolument. D'ailleurs, j'invite tout le monde à lire donc, ce livre d'Avram Sotskavara, Le ghetto de Vilno, qui vient de paraître aux éditions de Noël avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Merci beaucoup, Gilles Rosier. C'était Mémoire vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoire vive au pluriel.net.